RFI, grand reportage, Céline Pellarin.
Dans le Donbass, cette région industrielle de l'Est de l'Ukraine, la guerre vit son troisième hiver. Depuis le printemps 2014, en effet, le conflit a fait plus de 10 000 morts selon l'ONU et les affrontements persistent malgré les accords de paix de Minsk signés en février 2015. Et une nouvelle explosion de violence a fait au moins une trentaine de morts. C'était début février, côté ukrainien. Quant aux pertes du côté des forces pro-russes et russes, elles restent difficilement quantifiables en raison du flou qui persiste autour de la nature des forces en présence à Donetsk et à Luhansk. Pour l'Ukraine, l'effort de guerre est conséquent. Kiev l'estime à 5 millions d'euros par jour. Et dans le contexte de ce qui est aujourd'hui une guerre d'usure, les Ukrainiens cherchent un moyen pour traiter avec les territoires que le gouvernement ne contrôle pas et les quelques 3 millions de personnes qui y résident. Alors, conquête militaire, isolation, réintégration, le débat fait rage dans le pays. Dans l'est de l'Ukraine, entre guerre, réintégration et abandon, c'est un grand reportage de Sébastien Gobert.
Le long du passage à niveau, le camp ne paye pas de mine. Deux tentes, des bras zéro, quelques drapeaux nationalistes, le tout posé sur un sol sali par la neige fondue. Cela suffit pour Vlad, de son nom de guerre, et une poignée d'hommes en uniforme militaire pour bloquer les voies ferrées qui traversent le village de Cherbinivka, au nord de la République autoproclamée de Donetsk.
Nous voulons en finir avec cette économie parallèle. Regardez notre slogan, c'est « Stop au commerce du sang ».
À quelques dizaines de mètres de là, un convoi de wagons de marchandises est immobilisé. À son bord, des centaines de tonnes d'anthracite. Extrait en territoire séparatiste, il devait approvisionner des usines en territoire ukrainien. Depuis 2014, les livraisons n'avaient pas été interrompues malgré la guerre. Pour Vlad, il est temps de mettre un terme à ces échanges.
Notre barrage, c'est une réaction au plan de réintégration des territoires occupés qu'ils ont adopté à Kiev. Ce plan légalise le commerce avec l'occupant. Ils pourront s'enrichir en écoulant leur charbon sur le marché ukrainien. Nous ne pouvons plus rester sans rien faire, à regarder tous ces wagons qui passent et repassent sans être contrôlés.
Trois voies ferrées sont bloquées dans la région depuis début février. Ici, les militants nationalistes ne sont qu'une quinzaine, mais ils sont liés à des bataillons de combattants volontaires et à des partis politiques siégeant au Parlement à Kiev. À ce titre, ces hommes fatigués et mal rasés sont en opposition frontale avec le président, Petro Poroshenko.
Ce blocage est non seulement inutile, mais en plus, il crée des problèmes. Ces militants bloquent nos efforts pour retrouver notre souveraineté territoriale. Ma position, et celle de mon gouvernement, elle est claire. Ce n'est qu'à travers des efforts diplomatiques que nous pourrons ramener ces territoires au sein de l'Ukraine. Je condamne toutes les postures politiciennes qui consistent à isoler ces territoires et de facto à les donner en cadeau à la Russie. Je le répète, cette terre n'est ni à prendre ni à donner.
Cette rhétorique n'impressionne pas Vlad, chef du camp à Cherbinivka. Il a lui-même été chassé de sa maison par les combats. Il s'estime légitime pour reconquérir sa région natale. Vlad accuse le président de protéger les intérêts de quelques profiteurs de guerre et de mener un jeu trouble dans son rôle de défenseur de la patrie.
Cela ne répond pas aux questions essentielles. À Kiev, ils détournent l'attention en s'étonnant que les voies ferrées soient bloquées et en se demandant qui nous instrumentalise et ainsi de suite. Mais il faut répondre aux vraies questions. Nous sommes en guerre, oui ou non? Nos camarades croupissent dans des prisons ennemies ou pas? Une partie de notre territoire est occupée, alors pourquoi continuons-nous à faire du commerce? Je ne connais aucun exemple de conflit dans le monde où le business a continué comme si de rien n'était.
Ce faisant, Vlad accuse l'exécutif d'entretenir un double langage depuis 2014. Kiev a beau dénoncer une agression militaire russe, les relations diplomatiques n'ont jamais été rompues. Et si à Kiev on parle de guerre dans le Donbass, le nom officiel de l'intervention militaire est celui d'opération antiterroriste. Face à ce qu'il considère comme des compromissions, Vlad conclut, l'air déterminé.
Il n'y aura pas de paix tant que certaines personnes continueront à gagner de l'argent dans cette guerre.
Ce blocage est la manifestation la plus concrète des tensions qui déchirent la société ukrainienne autour du nouveau plan de réintégration du Donbass. Celui-ci a été adopté le 11 janvier et proposé par le ministère des territoires temporairement occupés. Yuri Grimchak est le conseiller spécial du ministre, lui aussi exilé de sa ville de Donetsk.
Ce plan ne vise pas à réintégrer les territoires occupés du Donbass, pas encore. Nous visons à réintégrer les gens qui vivent là-bas. L'idée principale, c'est de leur offrir quelque chose d'autre et les intégrer dans notre espace médiatique, économique, entrepreneurial. Dans ce plan, nous avons développé toute une série de mesures qui vont du transport de marchandises à la politique de l'information.
Les Ukrainiens des territoires séparatistes auront des facilités pour étudier, voyager, développer une entreprise ou encore accéder à l'assistance médicale. Un plan similaire est en cours de développement pour les populations de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014. Face à cette politique d'ouverture, l'opposition craint que le plan n'engendre un dangereux précédent. Oksana Siroïd est la vice-présidente de l'affaire Komnarada, le parlement, au sein du parti Samopomitch, un parti originaire de l'ouest de l'Ukraine.
Dans cet éventail de mesures, il y a des bonnes choses. Par exemple, la possibilité pour les jeunes d'étudier à distance selon le programme ukrainien. Mais d'une part, nous savons que ce plan profite aux oligarques qui continuent leurs activités des deux côtés de la ligne de front. D'autre part, dans les territoires occupés, il y a deux catégories de personnes. L'administration d'occupation russe et leurs supplétifs. Et les civils qui vivent là-bas. Et ces civils que nous voulons aider, ils ne décident de rien. Donc toute relation avec l'autre côté ne sera qu'avec les occupants, pas avec les civils directement. Cela veut dire que nous accommoderons, que nous renforcerons la puissance occupante. Nous nous retrouverons à payer pour l'occupation.
Oksana Siroïd va jusqu'à assimiler ce plan de réintégration à une haute trahison.
Le concept de ce plan est mauvais. Il faut l'annuler. Il n'a été ni écrit en Ukraine, ni pour les Ukrainiens. Il n'est pas dans les intérêts du pays.
Pour le conseiller Yuri Grimchak, il n'est plus l'heure de jouer sur les mots. Il y a plus important.
Il y a environ 700 000 personnes qui franchissent la ligne de front chaque mois, par jour jusqu'à 25 000 personnes.
Il est important de faciliter la vie des populations civiles du Donbass afin de s'en assurer le soutien.
Au poste de contrôle le long de la ligne de front, nous prévoyons d'installer des centres administratifs afin que les gens n'aient pas à aller loin pour déclarer un mariage ou une naissance ou renouveler leur passeport.
À 800 km de Kiev, le poste de contrôle de Stanitsa Luganska, au nord du bastion séparatiste de Lugansk, est l'un des principaux points de passage d'un camp à l'autre. Ici, la traversée est compliquée depuis que l'unique pont enjambant la rivière Donetsk a été détruit par un bombardement. Les civils se massent néanmoins par centaines pour passer d'un côté comme de l'autre.
Ça fait 4h30 que j'attends. Je suis venu toucher ma retraite et je rentre à Luhansk.
Je vais voir mon fils à Luhansk. Il étudie là-bas, c'est un athlète. Aller vivre en territoire ukrainien, c'est hors de question, car son pensionnat est à Luhansk. On faisait comme ça avant la guerre. On continue comme ça maintenant. On préférerait que tout redevienne comme avant. Mais ils nous ont séparés. On ne peut plus revenir en arrière.
Pour ces deux personnes et les centaines d'autres dans la file d'attente, on devine qu'une simplification des formalités administratives et des conditions de passage serait bienvenue. Le premier obstacle à l'application du plan de réintégration, ce n'est pourtant pas la politique. Les combats n'ont jamais cessé le long des 400 km de la ligne de front. Ils rendent les passages parfois dangereux et ils n'épargnent pas non plus des quartiers résidentiels de ville. Les accords de paix de Minsk, signés en février 2015, n'y ont rien changé.
Les accords de paix, quels accords? Ils annoncent des accords à tout va, et voilà où on en est. Qu'ils se mettent d'accord une bonne fois pour toutes.
La ville d'Avdiivka se remet à peine des bombardements meurtriers de début février. À l'initiative des séparatistes, les tirs avaient coûté la vie à au moins une trentaine de personnes, civiles et militaires. Malgré l'écho de l'artillerie au loin, la ville est calme. Mais pour Mariana Ivanivna, cela ne change pas sa situation.
Je vis d'aide humanitaire. Mon mari a été tué il y a 2 ans. J'ai reçu un statut d'invalide après des bombardements. Comment survivre? Tout le monde veut la paix. Tout le monde veut retrouver une vie normale. Qui a besoin de cette guerre? Dites-moi. Ici, nous mourrons un petit feu. Ils ont bombardé ma maison. Et ma pension est si modeste que je ne peux pas en vivre.
Dans son bureau à la mairie, le colonel Pavlo Malirin est le chef de l'administration militaro-civile d'Avdiivka. Il est occupé à panser les plaies de sa ville après les derniers bombardements. Lui aussi a constaté que le processus de paix de Minsk n'a pas amélioré la situation de sa ville. Les garants des accords de Minsk, comme il le rappelle, ce sont Angela Merkel et François Hollande, deux chefs d'État distants du conflit. La mission d'observation de l'OSCE, elle, n'est pas efficace pour assurer le respect du cessez-le-feu.
L'OSCE, ils ne voient rien. Quand ils sont sur place, ça ne tire pas. Dès qu'ils repartent, les tirs d'artillerie recommencent. Je pense que la mission d'observation est très importante, mais il faut qu'ils se donnent les moyens. Ils restent dans les zones sécurisées, mais ne vont jamais dans les endroits où des gens se font tuer. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Constater de visu une fois ou écouter les bombardements 100 fois? Le risque existe, évidemment, mais dans les quartiers bombardés, il y a des petits enfants qui vont à l'école. Eux, ils prennent le risque.
Les violences ne sont pas prêtes de s'arrêter de sitôt. Et les responsabilités sont partagées. À proximité d'Avdiivka, un ancien centre de contrôle aérien sert de base au bataillon de Donbass Ukraine. Les accords de paix de Minsk, ici, ne sont pas pris au sérieux.
La paix ne se fera pas à travers les accords de Minsk. Tout simplement parce que cela ne convient ni à l'Ukraine ni à la Russie. Cet accord leur a été imposé.
Au lieu de processus de paix, le soldat Pavlo Kulik et ses camarades parlent avec confiance de leur nouvelle stratégie militaire.
Nos troupes avancent petit à petit. Nous prenons des villages, des positions. Nous avons repris le village de Novolougansky il y a peu. Nous pouvons y arriver par petits pas. Et d'après les estimations que l'on a depuis l'autre côté, il y a de moins en moins de combattants chez les séparatistes.
Ces estimations sont très floues et l'histoire a montré que les troupes régulières russes pouvaient intervenir directement pour aider les séparatistes. Ces derniers mènent aussi leur propre stratégie de petits pas et de duels d'artillerie incessants. Cela dit, une intensification des violences ne devrait pas être synonyme d'un retour à un conflit généralisé.
Nous pourrions aller plus loin, mais cela voudrait dire des combats généralisés et la ruine pour le Donbass. On peut estimer qu'au moins 500 000 civils y perdraient la vie. Je pense que personne ne prendra la décision de lancer une telle attaque.
Si l'option militaire n'est pas envisageable et que le plan de réintégration est difficilement applicable, certains sont tentés par l'idée d'une séparation claire et nette. Dans son bureau à Avdiivka, Pavlo Malirin a un exemple historique tout trouvé.
À Berlin, il y a eu un mur pendant longtemps. Les gens ne se sont pas parlé, mais tout s'est bien terminé. Ici, il faut que la Russie se retire et que l'on reprenne le contrôle de la frontière. Ensuite, on négociera entre nous. Entre-temps, on peut isoler le problème.
Le colonel s'inscrit ici dans la lignée des militants du blocage des voies ferrées, en préconisant une rupture avec les territoires séparatistes. Pour le conseiller Yuri Grimchak, cela trahit une vision à très court terme. Les infrastructures vitales de la région sont trop intriquées pour être dissociées. Par exemple, pour l'eau potable.
Le canal de distribution part du nord de la région. Slaviansk, Kramatorsk, ce sont des villes sous notre contrôle. Le canal part ensuite dans les territoires occupés et la grande ville de Donetsk. Et ensuite, il ressort pour arriver au port de Mariupol, une ville aussi sous notre contrôle. En théorie, nous pourrions couper l'eau et même l'électricité à Donetsk. Mais cela voudrait dire la mort de notre ville de Mariupol. Tous ceux qui assurent pouvoir tout couper demain sont des menteurs.
Lors d'un débat animé à Kiev, Yuri Grimchak fait face au journaliste Sergei Armash, lui-même exilé de Donetsk.
Les entreprises qui produisent dans les territoires occupés et envoient leur production en territoire ukrainien paient des taxes aux séparatistes. Les Ukrainiens ont besoin de leur charbon, bien sûr, mais il faut nous poser la question, sommes-nous prêts à contribuer au financement de leur guerre contre nous? Les blocages actuels de voies ferrées peuvent être une chance pour la réintégration.
Yuri Grimchak se défend. Bloquer ces routes commerciales ne voudrait en aucune manière dire que les séparatistes se retrouveraient sans financement ni armement, étant donné qu'ils sont soutenus par la Russie. Au contraire, cela représenterait un manque à gagner pour Kiev.
Il y a beaucoup d'entreprises qui possèdent des usines dans les territoires occupés, mais qui sont enregistrées en territoire ukrainien. Ces entreprises ont contribué à l'équivalent d'1 milliard d'euros d'impôts au budget national l'an dernier. Dans le même temps, notre effort de guerre a représenté l'an dernier 2,2 milliards d'euros. Ces entreprises ont donc couvert la moitié de nos dépenses de défense.
Sergei Armash n'y tient plus.
Si on suit cet argument des impôts, alors autant inviter ici Alexander Zaharchenko, le chef de Donetsk, et l'autoriser à monter une entreprise pour qu'il puisse payer des impôts, faire semblant d'être un bon citoyen avant de rentrer à Donetsk et de lever des armes contre nous.
Dans ce débat, la sociologue Irina Bekeshkina présente les résultats d'un sondage sur l'attitude des Ukrainiens face à la question des territoires occupés. Aucune des solutions, que ce soit la rupture ou la réintégration, ne récolte plus de 17% de soutien. Aucun consensus n'existe sur la manière de ramener la paix dans le Donbass. Irina Bekeshkina.
Le débat est tellement politisé entre des positions extrêmes qu'il est difficile d'y voir clair. Je me rappelle le slogan des étudiants de mai 68 en France, « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». Je reformulerai dans notre contexte, « Demandons l'impossible, mais restons réalistes ».
Le réalisme, Yevhen Vilinsky le voit à travers des projets concrets de reconstruction économique du Donbass. Lui est le vice-gouverneur de la région de Donetsk, en charge d'attirer des investisseurs.
Nous voulons construire ici une sorte de Berlin-Ouest qui montrerait aux habitants du bloc de l'Est que nous pouvons bâtir une vie meilleure, avec la nuance que le mur de Berlin, c'était l'Est et pas l'Ouest qui l'avait construit. Il faut que nous fassions preuve d'ouverture. Nous menons toute une série de projets pilotes, même des projets jamais expérimentés en Ukraine, pour montrer que l'on peut y arriver ensemble.
Dans la cour de l'école numéro 11 d'Avdivka, on est très loin de ces controverses politiques et de ces grands projets. Au loin, on entend quelques déflagrations d'artillerie, mais ici, tout semble simple, comme le remarque Olga, la surveillante de la cour.
Les enfants, vous les voyez, ils sont heureux, ils ne réagissent plus au bruit des bombardements. Ils jouent comme des enfants, ils nous montrent l'exemple pour continuer à vivre.
La région industrielle du Donbass, ancien fleuron de l'économie soviétique dans laquelle ses enfants sont nés, était depuis des années en déclin. Avec la guerre, elle se retrouve meurtrie et défigurée. Et après 3 ans de conflit, rien ne permet de deviner à quoi le Donbass ressemblera quand ses enfants deviendront grands. L'Est de l'Ukraine, entre la guerre, la réintégration et l'abandon. Un grand reportage de Sébastien Gobert, à la réalisation Anouk Bernet.